marceau tout seul, c'est correct. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Salut les amis, bienvenue sur les ondes Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle matinée en compagnie de Reg et de toute sa gang. Audrey Pinchot qui est là, qui a de l'air tout en forme.
Hello, ouais. Hey, tu trouves?
Ouais.
Tu me fais plaisir parce que je file Jello aujourd'hui.
Ouais, ben, c'est peut-être parce que t'as pris ta douche pour une fois, je sais
je...
pas.
Non, mais t'as un point, par exemple. J'ai pris le temps de m'arranger la tête un peu un matin.
C'est vrai? Ça fait du bien, ça a de l'air.
Oui, ben c'est parce que je suis vraiment due. La vérité, là, c'est que je suis vraiment due pour aller faire un tour chez la coiffeuse. J'ai pas le temps. Je trouve ma tête vraiment laide. Fait que je me suis dit, je vais friser mes cheveux. Ça aide à donner du volume puis du corps.
Bon Dieu, que ça nous intéresse.
Ben non, ça intéresse personne, mais sais-tu quoi? Ça me fait du bien d'en parler.
Exact! T'as-tu réglé ton problème de cellulaire, là?
Hey, non!
C'est un Pixel?
Moi, j'ai un Google Phone. C'est la même affaire qu'Apple. Ça marche de la même manière pour le cloud et compagnie. C'est le même mot d'affaire.
Non.
Mais avec Google. Puis j'ai un 6 qui est comme un peu plus vieux. Puis là, j'ai reçu un 9. Puis j'ai réalisé que je savais pas quoi faire avec ça. Tu sais, j'ai toujours été, mettons, au magasin pour changer mon sel, puis le petit gars en avant, il me changeait tout.
Ouais.
J'avais rien à m'occuper, je repartais avec un téléphone juste neuf avec toutes mes bébelles à la bonne place. Mais là, j'ai senti les mêmes, je sais pas quoi faire. Puis pour vrai, je me sens innocente bien raide, là. Mamie est dans la place.
Ouais. Mais c'est juste que ça fait un bout que tu as décroché de ces technologies-là. J'imagine que tu es meilleure dans d'autres choses.
J'ai d'autres talents qui disent.
Tu sais, quand il y a des affaires que tu n'as pas faites depuis des années, je fais partie, moi, de la génération où on était les experts pour ce qui est du VHS.
Ouais.
Tu sais quoi, VHS?
Oui, les cassettes.
Oui, les cassettes.
Oui, non,
moi, j'étais un expert. Fait que le père, il disait, là, tu peux-tu me programmer ça? Tu peux-tu m'ouvrir la télé?
Ouais.
C'était comme nous autres, les spécialistes de la technologie. Puis là, aujourd'hui, je regarde mes gars aller, puis c'est eux autres qui m'en montrent à chaque fois.
C'est ça qui est fou, hein? Le pire, c'est que je suis capable de faire fonctionner un téléphone. Le point n'est pas là, c'est tous les transferts. Écoute, j'ai écrit une liste de questions à notre technicien. C'est vraiment pas sa job là, de m'aider avec ça, là, tu comprends? Là, comme... il y a deux, trois stations à gérer.
Il est tellement gentil qu'on peut en abuser tout le temps.
Mais c'est ça le problème.
Exact. Puis on le sait.
Mais c'est peut-être ça aussi, mais sans lui, je suis faite. Fait que là, j'ai un matin, j'ai posé plein de questions. Là. Quand je mets la petite nouvelle carte SIM, là, est-ce que mon autre cell est automatiquement hors fonction?
Ben non.
Non. Fait que là, ça veut dire que j'appelle ma compagnie de téléphone.
Oui.
Puis là, je l'appelle avant ou après avoir seté le nouveau téléphone. Tu
comprends-tu? Attends d'avoir ta ligne avec ton nouveau téléphone.
Puis là, j'ai le même numéro. Ils se sont occupés de ça, fait qu'au moins. Mais là, après ça, le transfert de toutes nos bébelles. Je sais pas vous autres, mais moi, au-delà des photos, mes contacts, ma job est basée sur ma liste de contacts.
C'est la raison pour laquelle je t'aurais conseillé un téléphone comme le mien.
Oui, mais c'est parce que toi, tu connais bien iPhone, mais moi, avec ça dans les mains, Yann, là,
c'est intuitif.
La panique, là.
C'est tout intuitif. C'est tout facile. C'est la raison pour laquelle les gens qui utilisent le Mac, mettons, là, une fois que tu es habitué avec les Macs, retourner sur un PC, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai la chance parce que je travaille avec les deux constamment. Fait que je suis capable de passer d'une plateforme à une autre.
Mais je pense que c'est plus vrai.
Tu me donnes ton cellulaire, là, et je suis perdu totalement parce que depuis les dernières années, mettons, ça fait plus de 15 ans, j'ai tout le temps un iPhone.
Mais c'est pareil pour ceux qui ont des Android. Nous autres, on garde l'iPhone, puis on est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je comprends à moitié rien. Puis là, bref, j'ai ma liste de questions. Là.
Dan qui m'écrit par Messenger en passant. On est toujours là, 418-971-1021 par texto. Puis je comprends qu'il y a des auditeurs qui veulent m'écrire par Messenger. Vous pouvez le faire. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Dan dit, en changeant ta carte SIM, ton numéro, tu vas être correct. Fait que t'as plus
besoin. Je prends même dans mon téléphone, je mets dans le nouveau téléphone.
Exactement.
Parce qu'ils m'en ont envoyé une nouvelle. Fait que là, tu comprends, c'est toutes des affaires que je réalise que je sais pas.
Ouais, mais t'as peut-être des petits transferts à faire. Là, tu géreras ça avec JS quand tu réussiras à le rencontrer.
Ouais, ben c'est ça. Fait que là, on est là-dedans matin. Fait que je me rends compte que, tu sais, il y a des affaires avec lesquelles t'es pas habile dans la vie. La technologie, pour moi, c'est gros.
Ouais, faut juste pas que t'arrêtes. Moi, j'ai le grand-père de mes enfants, pendant 40 ans, il a refusé toute technologie. C'est un gars de construction. Il avait son entreprise en construction. Il avait son imprimante. Le plus technologique qu'il avait, c'est qu'il avait son imprimante dans son troc pour imprimer les factures. Mais il n'y avait pas de téléphone cellulaire là, à pouce. Là.
Ouais.
C'était tous les vieux téléphones cellulaires.
BlackBerry, genre.
Flip, BlackBerry,
tout ça.
Puis à un moment donné, ils ont dit, « Hey, Sylvain, ça te tente-tu de faire d'autres choses qu'être entrepreneur en construction puis devenir enseignant pour l'école des métiers de la construction à Québec qu'on a? » Sylvain, il a dit « Ben oui. » Il dit « Parfait, envoie-moi ton CV. » Il n'avait jamais envoyé de CV.
Ah, Seigneur!
Sylvain, il avait 53, 54 ans. Il n'avait jamais envoyé de CV de sa vie parce qu'il avait tout le temps travaillé sur la construction. Fait que là, faire ton CV, là, il avait ses filles. Jusqu'à maintenant, il avait ses filles. Mais après ça, une fois que tu deviens, que tu es accepté comme enseignant, faut que tu aies des plans de cours.
Ben oui, faut des courriels.
Des courriels, il n'y avait pas ça. Fait que lui, là, à 54 ans, il aurait appris... Ben, il a appris c'était quoi un ordinateur, c'était quoi un courriel, c'était quoi Facebook. Il n'y avait pas Facebook.
J'ai tellement d'admiration.
Il venait d'une autre planète.
Mais tu sais, pense juste à... T'sais, je pensais à, mettons, mes grands-parents. Là. Ma grand-mère est rendue à 86, 87 du côté de mon père. Puis je veux dire, est sur Facebook, c'est son site. Elle est sur son site, puis ça roule. Là.
C'est son site. Elle sait
comment ça fonctionne. Elle est bonne avec son Facebook, son Messenger, son... Puis tu sais, c'est quelque chose... a jamais baigné là-dedans. Là. Tu sais, nous autres, quand tu regardes les prochaines générations, la technologie fait partie prenante de notre quotidien. Ma grand-mère, à 86 ans, là, il y avait zéro technologie là, quand elle était jeune. Là.
Pendant la pandémie, on interdisait aux familles d'aller visiter leurs aînés dans les résidences.
C'était épouvantable.
Puis moi, j'étais là pendant la pandémie, je faisais un peu de bénévolat, puis je travaillais au travers de tout ça. Et les gens venaient me porter des iPads pour leurs grands-parents ou pour leurs parents qui avaient 80, 90 ans. Ces gens-là n'avaient jamais eu cette technologie-là entre les mains, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire du FaceTime.
Ben oui, donc
là, puis là, nous, techniquement, on n'avait pas le droit de toucher, de côtoyer les résidents, puis on n'avait pas le droit de toucher à leurs objets.
Mais il y avait besoin d'aide.
Fait que j'attendais que le soir arrive, que le staff parte. Puis c'était moi qui étais le préposé au iPad, puis je leur installais tout ça, Messenger, pour qu'ils puissent parler avec leur famille. Mais tu sais, souvent, là, je leur settais leur truc pour qu'ils soient corrects pour monter dans leur appartement en haut. Puis 15 minutes plus tard, ils redescendaient en bas. On disait, quel piton faut que je paye?
Ben oui. Puis le pire, c'est que tu as raison quand tu disais tantôt que c'est super intuitif. Si tu prends la peine de lire les instructions que ton téléphone te donne pour faire une certaine marche à suivre, là, c'est facile. Là. Mais c'est comme si on était un peu mené par la peur. Tu connais pas ça, fait que tu recules, tu veux pas faire d'erreur, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a rien d'irréparable avec la technologie. Là.
C'est ça. Mais tu sais, c'est des générations qui n'étaient pas capables d'allumer la télé avec la manette.
Oui. Non, c'est vraiment capoté.
Ils demandaient, tu peux-tu m'allumer la télé? Mais le grand-père de mes gars n'était pas capable de changer de poste.
Mais j'en doute pas.
Parce qu'il y avait 2-3 manettes à la maison. Il regardait 2-3 manettes, ça ne disait absolument rien.
C'était à quel?
Puis,
quel piton?
Un moment donné, il disait « Hey Marceau, tu peux-tu mettre mon hockey? » Je mettais le hockey. Deux jours plus tard, on retournait là. Puis c'était encore à RDS.
Ben oui, parce qu'il n'avait pas pu le changer. Les grands-parents à mon chum ont comme 94 ans. Puis je trouve ça admirable à quel point, justement, le FaceTime puis le Facebook puis toutes ces affaires-là sont capables de s'en servir. Ils se sont super bien adaptés. Fait que je me sens innocente. Ouais. Je suis pas capable de citer mon téléphone. Je me dis, il y a des gens qui ont appris. Moi, je baigne là-dedans, puis c'est comme si je veux même pas apprendre. Vas-y, occupe-toi de ça à ma place.
Mais iPhone, c'est plus facile. Tout le monde va te dire ça.
Mais ça, c'est ridicule. Et toi, iPhone ou Android?
Hier, dans Mars au soir, j'ai jasé pendant 60 minutes avec Maria Mourani,
oui,
la criminaliste. Puis des fois, je pogne des 2 minutes. Là, parce que, tu sais, nous, ce qu'on se fait dire à Québec versus ce qu'eux se font dire à Montréal. Puis en plus, Maria Mourani, elle, est criminaliste. Puis elle est impliquée, tu sais, dans les histoires de mafia, de gangs de motards, de gangs de rue. Elle baigne directement dedans. Puis en plus, elle va dans les écoles pour rencontrer les jeunes qui pourraient peut-être, à un moment donné, se ramasser dans des gangs de rue. Puis j'avais dit à Maria hier, qu'est-ce qu'il faut faire de plus en tant que citoyen pour aider notre prochain, pour que ces jeunes-là ne se ramassent pas dans les gangs de rue? Puis elle est tombée sur une histoire que je ne m'attendais pas pantoute. C'est que le recrutement se fait très jeune. Tu sais, on parle beaucoup des jeunes filles là, qui se font recruter par des pimps.
Exploitation sexuelle.
Il y a comme de la désensibilisation. Tu sais, ils font miroiter de l'amour. La jeune fille tombe en amour avec l'individu. Mmh. Oh, prise de drogue, on va dans des parties. Oh, je t'achète une robe, je t'achète une sacoche. La jeune fille dit, j'ai rencontré mon prince charmant.
C'est graduel comme prise de
contrôle. Et à un moment donné, ben, problème d'argent. Le gars n'est plus capable de donner la dope à la jeune fille. La jeune fille est rendue dépendante, accrochée. Et dit, hey, on pourrait peut-être faire un trip à trois avec un de mes amis, il pourrait nous donner comme un 200$, un 300$, puis ça nous sortirait peut-être du trouble. Puis là, ben, la jeune fille embarque là-dedans par amour pour son conjoint, entre guillemets, puis la désensibilisation commence. Ben, tu sais quoi? C'est la même chose pour les jeunes garçons. C'est la même chose pour les jeunes garçons dans les gangs de rue. Ils les approchent à partir de 10 ans.
C'est tellement jeune.
À Montréal. Puis c'est, ils créent des enfants soldats, puis très rapidement, ils vont leur donner de la dope pour que ces jeunes-là ne puissent enlever leur peur. Tu sais, avoir une arme à feu quand tu as 10 ans, c'est complètement anormal dans les rues de Montréal. Mais ces jeunes-là savent que une arme à feu, c'est dangereux. Si je me fais prendre avec ça, la police va m'arrêter. Je vais peut-être aller en centre d'accueil. Je suis nerveux. Donc, ils leur donnent de la drogue. Et ils leur donnent un espoir de dire, écoute, regarde là, t'es noir. Elle m'a pas dit ça de même, là. Mais regarde, t'es noir, puis tu vas toujours être considéré comme noir, puis t'auras pas accès à des belles jobs et tout ça. Tu vas toujours avoir des jobs de merde. Fait que reste avec nous autres.
On les réduit.
Puis nous autres, on va t'aider. Puis si t'es capable de grimper dans l'organisation, là, tu vas avoir la belle grosse maison en banlieue de Montréal. Pas à Montréal, mais la belle grosse maison en banlieue à l'extérieur de l'île. Puis tu vas voir, ça va être ça le succès. Donc le jeune de 10, 11, 12 ans, il embarque là-dedans. Oui. Puis probablement que le jeune de 14 ans, avec ses amis, puis by the way, il m'a pas dit que ma théorie là, était fausse concernant le fait que le jeune homme pouvait peut-être être décédé avant. Moi, c'est ce que je pense. Je pense pas que ce soit les Hells Angels qui auraient découpé le jeune homme.
Tu parles du jeune de 14 ans qu'on a retrouvé à Frampton.
Exact. Donc, tu sais, moi, les Hells Angels ne se sont jamais attaqués à des enfants. Fait que je ne comprenais pas pourquoi il aurait pris le temps, après avoir reçu des coups de feu, après l'échange de coups de feu, il aurait pris le temps de découper le jeune homme, puis ensuite mettre le feu sur ce jeune homme-là. Là. Tu comprends? Donc, probablement qu'on a tué ce jeune de 14 ans-là. À Québec ou à Montréal, je sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus. On l'a mis dans un genre de valise, puis on l'a amené en faisant notre coup, c'est-à-dire en tirant sur le bunker. On l'a amené à Frampton pour essayer de mettre un peu plus de chaleur sur les Hells Angels dans ce secteur-là. Parce que tu t'attaques à un enfant, c'est sûr certain que les policiers vont vouloir se venger puis te mettre encore plus dans le trouble que tu l'es déjà.
Je trouve ça triste parce qu'un enfant de 10 ans, c'est déjà... Je vais utiliser le terme cerveau mou, là, mais tu sais, on dit que les enfants sont des éponges. Là. Je veux dire, t'as pas encore le temps à 10 ans d'avoir fait ta propre opinion sur tout ce qui t'entoure dans la vie puis de comprendre la réalité de tout ce qui t'entoure aussi. Fait qu'avant même les drogues, c'est tellement facile de se faire embarquer là-dedans, mais 10 ans, ça me fait capoter. Là.
Ouais.
T'as tes gonds quel âge?
Mes gonds, 10 ans. Mon plus vieux, en fait, il va avoir 11 ans le 10 octobre.
Ben, c'est débile, là.
Puis, Maria, puis moi, je suis très visuel comme individu. Là. Quand elle me parlait de jeunes garçons de 10 ans qui avaient des armes à feu de cacher sur eux ou encore à la maison ou encore dans des endroits bien précis, je voyais mon petit gars. Ça me faisait mal au cœur. J'ose... Tu sais, parce que elle dit qu'il y a des familles à Montréal, à grandeur du Québec, on pourrait dire, qui sont vraiment des familles de criminels. Puis les parents disent rien parce que les enfants ramènent de l'argent à la maison. Donc, les parents bénéficient des activités licites de leurs enfants. Mais il y a d'autres familles qui ont des enfants, qui ont l'impression que leur enfant va à l'école à tous les jours, que ça va super bien. Mais dans le fond, ça devient des petits bums qui sont formés par des gangs de rue puis qui leur mettent un gun dans les mains, très jeune, un couteau très jeune. Ils vont les charger de faire des missions, faire de l'intimidation, aller briser quelque chose, aller voler quelque chose, ramène-moi ci, ramène-moi ça. Puis bien souvent, si les jeunes commencent à avoir 18-19 ans puis ils commencent à les connaître, ils ne connaissaient pas avant, bien ils vont leur faire commettre des crimes, puis ils vont les faire prendre intentionnellement pour que la personne puisse avoir un casier criminel. Donc, à partir du moment où la personne a un casier criminel, on sait que c'est pas un policier, un jeune policier qui serait infiltré, exemple. Ouais.
Bon, on avait entendu parler, entre autres, tu sais, à Québec, c'était des rumeurs, là, que une des initiations de tout ce qui était Blood Family Mafia puis des gangs, c'était le viol, là. Il y avait eu des histoires qui s'étaient retrouvées dans l'actualité, puis les rumeurs qui couraient autour de ça, c'est que ben, c'était la façon de faire ton nom, de violer des jeunes filles, tu sais.
Ouais.
C'est capoté raide quand tu y penses. Je me demande si c'est une loterie un peu. Y a-tu des... On parle beaucoup de Montréal, de plus en plus de Québec, Trois-Rivières, la Côte-Nord aussi, où il se passe des affaires assez particulières plutôt. Mais je me demande si c'est comme une loterie. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans le sens que moi, mettons, j'ai des enfants demain matin. Là. Y a-tu une façon de m'assurer qu'ils tombent jamais là-dedans? T'sais? Y en a-tu vraiment une?
Faut que tu limites le plus possible
les
opportunités. Mais c'est ça. T'sais, je vais avoir de l'air un peu freak pour mes enfants. Mais moi, c'est ça. Je sais ce que c'est de vivre au centre-ville de Québec. J'ai grandi là pendant 30 ans. Puis après ça, j'ai sacré mon camp. Mais je ne voulais pas élever mes enfants au centre-ville de Québec. Parce qu'il y avait trop de tentations externes qui pouvaient être vraiment cool, c'est-à-dire de se ramasser dans les bars à 13, 14, 15 ans. Fait que quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, je me suis dit, j'aimerais ça aller m'établir en Beauce. Il y a peut-être moins d'opportunités de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont tout croche en Beauce. Il peut y en avoir.
Mais il y en a partout.
Mais j'ai l'impression que c'est moins compressé. Puis à Montréal, ben, comme avec toutes les diverses gangs de rue, écoute, il doit y en avoir 75 gangs de rue à Montréal. Tu as plus de chances, si tu es un jeune, de te faire approcher par ces gens-là. Que tu sois blanc ou noir, soit dit en passant, je pense que c'est important de le dire. Là. Si tu es arabe, ben, ils ont leur propre petite gang. Si tu es chinois, ils ont leur propre petite gang. Si tu es québécois, ils ont leur propre petite gang. T'sais. Dave Picturman, c'est un blanc bec. Donc, ça veut pas dire que parce que tu es foncé, tu vas nécessairement être recruté par une gang de rue. Non, non, maintenant, c'est vraiment t'es un enfant, on remarque que t'as certaines aptitudes, on te prend, on te désensibilise, puis tu deviens un soldat pour nous autres. C'est d'une tristesse. Puis je me disais, hier, j'étais dans ma voiture, parce que bien souvent, je pense à ce que les experts m'ont dit. Tu sais, Maria Morani, moi, je la considère comme une experte, et avec raison. Et je pensais à ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour détruire ces petites gangs de rue-là? Tu sais?
Ça va toujours exister, ça a toujours existé. Ben, on s'en sortira pas.
Je l'ai, la solution, c'est travailler en amont, sortir dans les écoles pour que d'ex-membres de gangs de rue puissent dire « Voici les façons de vous recruter. Voici, moi, mon parcours. Ça fait maintenant 17 ans que je suis en prison parce que j'ai tué quelqu'un. » Puis les seuls bénéficiaires de ce meurtre-là, c'est des gens qui sont complètement à l'externe.
Mais ça marche-tu vraiment, Yann? Parce que, tu sais, ils en font tellement des conférences.
Travailler en
écoles.
Amont, je pense que oui.
Mais je veux dire, tu sais, ce genre de conférences-là puis ce genre d'approche-là, ils font pour mille et un sujets, tu sais. Puis on se souvient comme on est ado, là, ou jeune, là. T'en as plus rien à foutre de ce que les adultes expérimentés essaient de te transmettre. Là, on dirait que le message passe pas.
Quand c'est des polices, peut-être qu'effectivement, le message ne peut pas passer. Mais quand c'est un ex-membre de gang de rue qui est en prison, puis qui arrive à l'école, puis qui est accompagné de deux, trois policiers, puis qui parle de son parcours, puis comme quoi il s'est fait embarquer là-dedans quand il était très jeune.
Je pense qu'il y a une grosse job parentale là-dedans
ouais,
aussi.
Les gens peuvent peut-être... Ouais, mais je veux dire, comment on explique qu'il y a des jeunes qui virent tout croche alors que leurs parents ont toujours été droits avec eux? Fait que de mettre des membres de gangs de rue ou bien des anciens Hells Angels, puis de les faire qui sont en prison, de les faire rencontrer les enfants en disant « Voici votre futur, les amis. » Ça peut peut-être être plus pertinent qu'un policier qui dit « Bien, si vous faites de mauvaises choses, on va vous prendre puis on va vous mettre en prison. » Parce que là, tu as vraiment quelqu'un qui a de l'air vraiment d'un dur, qui est en prison, puis qui est désabusé un peu de ce qu'on lui a fait paraître.
Tu sais, il y a tellement de manipulation dans ces processus-là. Puis là, je m'excuse, je suis toute sauf optimiste dans notre discussion, là, mais je me dis, c'est sûrement impressionnant, tu sais, comme genre d'approche, c'est sûrement marquant, mais il y a tellement de manipulation que j'ai l'impression que c'est pas un filet sans trou, quand même, cette approche-là. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment de solution concrète au final. C'est plate à dire, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que ça passe par la famille. Puis t'as raison, il y a des exceptions. T'en as des parents qui ont fait leur job super bien, les enfants ont super bien été élevés dans un beau milieu, puis après ça, c'est les mauvaises fréquentations du secondaire qui embarquent, tu sais. Ça arrive. Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a beaucoup une question d'éducation là-dedans aussi. Puis c'est peut-être un préjugé que j'amène, je sais pas. Là. Je parlais par petite expérience personnelle à deux semaines. J'ai jamais été proche de me ramasser dans une gang de rue, moi, là. Mais quand j'étais à la Rive-Nord de Montréal, et moi, mon secondaire, je l'ai fait à Bois des Filions, à BDF. Puis je suis tombée à un moment donné dans une gang un petit peu plus louche. Où il se faisait des affaires pas nécessairement tout le temps correctes, tu sais. Puis je considère avoir été super bien élevée, prévenue, tout ce que tu voudras, puis... Mais je me sentais tellement cool avec ces gens-là, je me sentais tellement protégée, je me sentais tellement bien que j'étais un peu innocente dans ma façon d'agir, tu sais. Puis moi, je suis chanceuse. Encore une fois, j'ai été super, super bien entourée, tu sais. Fait que ça a pas mal fini mon affaire, mais ça a mal fini pour d'autres personnes. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a une limite à ce que tu peux faire, puis j'étais un peu
mais faut juste pas
négative.
Arrêter. Ben, c'est parce que, tu sais, à laisser ça comme ça, visiblement, ça ne semble pas fonctionner dans le secteur
plus,
de Montréal.
Plus. C'est sûr, c'est sûr.
Donc, essayer de trouver des solutions, mais moi, je reste avec mon idée de mettre un tough dans une école qui est en prison, accompagné de policiers, puis que autant les policiers que cet individu-là vont parler aux enfants.
Ouais.
D'après moi, ça serait plus marquant. On essaie de le faire auprès des jeunes filles dans les écoles secondaires, parler des modus operandi pour ce qui est des...
L'exploitation sexuelle.
De l'exploitation sexuelle. Je suis pas mal persuadé que ça fonctionne chez certaines jeunes filles qui sont capables de reconnaître les patterns.
Mais la différence, est-tu que l'exploitation sexuelle, c'est négatif, ça te fait du mal directement, c'est du mal physique, c'est du mal psychologique. C'est plus épeurant que d'être le méchant. Tu sais, quand t'es dans une gang de rue, tu parais pour le bum, justement. Tu parais pour celui qui est en contrôle, pas en exploitation sexuelle. En exploitation sexuelle, t'es une victime directe. Comprends-tu ce que je veux dire? J'ai le sentiment que peut-être que c'est pour ça que l'approche est différente et difficile, puis peut-être moins captée. Mais oui, on jase, c'est des pistes de réflexion.
Je sais
mais...
pas. Mais tu sais, si j'avais eu 10 ans...
C'était peur, hein?
Puis que je rencontre un gars de 16 ans, 18 ans, qui me donne 500$, puis qui me dit, attends, garde pour ta propre sécurité, là, moi, je vais toujours être là, puis si t'as des troubles à l'école, tu me le dis, puis ça va régler ton problème, puis t'as-tu besoin de quelque chose, garde, viens que nous autres, on prend un petit peu de dos, puis on va s'amuser. Tu sais, il y a quelque chose d'attrayant là-dedans quand t'as 10 ans, tu sais. tu regardes les clips, c'est plus ou moins vrai, mais dans le temps, c'était la musique plus. Mais mettons que tu regardes les clips sur YouTube, les gens qui réussissent, là, dans ta tête de gars de 10 ans, c'est les gars qui ont des grosses chaînes en or dans le cou. C'est les gars qui ont les belles grosses calottes.
Mais d'être accepté par les grands
Gucci,
aussi.
Gucci gang, tu sais, c'est... Mes gars parlent de ça. Mes gars parlent de ça. Je leur dis, les gars, regardez comment je t'habille, là. Puis on n'est pas dans la rue, on a un toit sur...
J'ai bien réussi, là.
On a un toit sur la tête. J'ai jamais dit ça.
T'as jamais dit ça?
Non, mes gars m'ont demandé, « Papa, est-ce que t'as réussi dans la vie? » Je dis, « Je sais pas, je vais savoir à la fin. »
Ah, c'est beau, ça,
mais je vais savoir à la fin. Parce que, je veux dire, il y a plusieurs facettes à la réussite, là. Mm-hmm. Tu sais, ta vie familiale, il y a ta vie amoureuse, ta vie financière, ta carrière aussi. Fait que, bon, pour la carrière, c'est mal parti. Mais pour le reste, on est en voie d'essayer de faire quelque chose de cool. Mais pourquoi je suis rendu là? Ah ouais, c'est ça, les jeunes... Eux, ils voient beaucoup l'attrait du matériel.
Mais oui.
Donc, la grosse chaîne en or dans le cou, les YouTubers de ce monde. Nous autres, c'était 50 cents dans le temps. Mm.
Mais là, mon Dieu, moi aussi, j'ai eu ça,
quand
par exemple.
T'écoutes les...
Tu vois que ça revient, hein?
Quand t'écoutes les paroles, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on n'avait pas les grandes connaissances en anglais qui nous permettaient de déterminer, tu sais, tel ton parle de... On savait ce qu'il disait, mais on ne savait pas exactement
le
ce qu'il disait.
De...
Mais
j'ai l'impression que ça changera jamais. T'sais, on a tous eu la même expérience à ce niveau-là, peu importe la génération. Moi, je me souviens, quand j'avais 10 ans, il y avait des amis de mes parents qui avaient deux jeunes filles, puis il y en a une d'elles qui avait 13 ans. Puis dans ma tête, j'avais donc hâte, tu comprends, d'être comme elle, d'être plus vieille, d'avoir des amis, puis un petit chum. Puis de... t'sais, j'ai l'impression qu'on admire toujours un peu. Bien, je ne veux pas dire ce qu'on n'a pas à cet âge-là, je pense pas qu'on a cette réflexion-là, mais on veut vieillir vite quand on est jeune. On veut grandir vite, puis j'ai l'impression que ça peut peut-être faire partie du problème aussi, puis de l'admiration que les jeunes ont envers ces petits bums-là de 15-16 ans, tu sais. En même temps, patience infuse, là.
Non, ben, pas ramassé dans une... en fait, il n'y a personne qui l'a. Mais de travailler en amont, je pense que c'est la meilleure des choses, puis d'essayer d'écouter nos enfants, puis de ne pas perdre le contact avec nos enfants. Tu sais, la communication, là, quand ils deviennent jeunes ados, on m'a dit que c'était difficile.
Mais oui.
Là, pour l'instant, il va avoir 11 ans. Il est encore très réceptif à ce qu'on dit. Il nous partage des affaires, quoique je sais qu'il me cache certains trucs, là. Mais il nous partage. J'essaie de ne pas couper ce courant de communication-là. Mais je le sais que vers 14, 15, 16, 17, je vais le perdre. Là,
mais il va n'avoir rien à foutre de pas. Là. Vous allez vous retrouver, mais qu'il est 22, 23 ans.
Christian, il dit quelque chose d'intéressant parce que j'imagine qu'il l'a vécu lui aussi. Quand j'étais jeune, Audrey. On nous faisait faire le tour des prisons.
Hein, voyons donc.
Ouais, nous autres, moi, je me souviens qu'on nous avait fait faire le tour du la centrale de police à Beauport.
J'aurais tellement aimé ça.
Puis ils nous avaient montré les petits quartiers où, si tu te faisais prendre, mettons, à te battre dans un bar, ils te mettaient là en attendant de te transférer. Puis tu rentrais dans la fameuse cellule, puis tu regardais la toilette, tu regardais le lavabo, puis tu regardais le lit qui avait vraiment pas de l'air confortable. Puis tu voyais les barreaux, puis le monsieur, il nous fermait la porte d'en face. Le bruit, ça fait longtemps. Le bruit, je m'en rappelle encore.
En tête.
Tu sais, c'est vraiment du fer sur du fer. Bing!
Puis là, ben, ils te font comprendre que tu peux rester poigné là si tu fais,
ouais,
si
puis
tu
là,
fais quelque chose de mauvais.
Puis le monsieur moustache, parce que dans le temps, tous les policiers avaient des moustaches, quoique ça doive revenir parce que c'est la mode ces temps-ci. Mais le monsieur moustache nous avait dit, imaginez-vous passer 20 ans de votre vie là-dedans.
C'est capoté, hein? Surtout que la notion du temps est différente quand t'es jeune, 20 ans, ça doit paraître 50. Là. Puis c'est pas mauvais comme idée. C'est pas mauvais. J'ai hâte de voir ce qui va être fait puis développé dans les prochaines années parce que visiblement, en ce moment, le problème fait juste grossir.
Quelqu'un qui dit « Hey Marceau, ce serait quoi ta réaction si t'apprenais qu'un de tes gars fait partie d'un gang de rue? » Ma réaction? Devenir le chef de gang de rue.
Rien de moins!
Pour protéger nos enfants.
Alors, on va continuer dans cette table-là un peu. Aujourd'hui, on va parler avec Danny Morissette tantôt des techniques d'enquête, des différentes techniques. On a un top 3.
Exact! 418-971-1021, vous êtes sur Boulevard 1021 dans l'Open Mic. C'est un peu plus human comme show. On parlera d'actualité vers les alentours de 11h30, les amis. Fait que si vous avez de quoi nous dire, écrivez-nous maintenant. Sarah Dufour, Smile d'en face sur Boulevard.
Quand je pense à ma vie.
Alright, 10h35, breaking news. Notre invité n'est pas là.
On parlera pas avec un ex-policier aujourd'hui, ça va aller plus tard.
Es-tu correct?
Oui, bien, en fait, écoute, il y a le même problème que beaucoup de gens ces temps-ci. Ça allait bien hier, pendant la nuit, il n'a pas beaucoup dormi, mais il se disait que ça allait bien aller. Puis là, ben, il vient de se réveiller en sursaut, parce que j'imagine que la nuit s'est rattrapée ce matin. Puis là, ouais. Il est malade, il a de la misère à parler, parce que la gorge est super enflée, fait que... Fait qu'écoute, ça arrive. Ça arrive, mais on a plein d'autres affaires à jaser, c'est la bonne nouvelle.
Exact! C'est la bonne nouvelle, toujours des bonnes nouvelles.
Hey, je suis tombée sur quelque chose il y a une couple de semaines qui m'a fait sourire parce que je pense qu'on est un peu, je sais pas si je peux dire non, au niveau de nos finances au Québec, au Canada même, on va étirer ça, on n'est pas bon avec notre portefeuille. Je pense que c'est pas nouveau. Puis RBC a fait une espèce de sondage qui révèle le fait que les Canadiens continuent de faire des erreurs en matière d'argent, ce qui n'est pas super surprenant, là. Par exemple, je te donne une stat qui, pour moi, est quand même assez parlante. Il y a 73 % des gens qui admettent agir au quotidien d'une façon qui peut nuire, finalement, à leur bien-être financier. 75 %, c'est littéralement le trois quarts du monde, finalement, qui font des erreurs constamment avec leur portefeuille et qui ne savent pas se gérer, si on traduit.
Faut déterminer c'est quoi une erreur, là.
Oui, à la base, c'est sûr que oui, mais tu sais, il y a des statistiques qui sont frappantes, là. Tu sais, on parle d'une personne sur cinq, fait 21 % qui ignore purement et simplement ses problèmes d'argent quand ils se présentent. Fait qu'il y a... T'as une personne sur cinq, qu'eux autres ont des dettes, ont des problèmes au quotidien, là. Ils n'ouvrent plus leur application bancaire.
Je connais des gens comme ça.
Bien, j'ai pas le choix de te dire que j'ai déjà été un peu de même.
Ouais.
Je vivais un peu dans le déni, puis je me disais, je vais attendre la prochaine paye. Ça va se régler même que la prochaine paye rang. On réglera ça plus tard. Fait qu'il y a vraiment une grande inconscience puis un manque d'éducation.
C'est négatif. Je veux rien savoir du négatif. Donc, je continue comme ça. Merci, Visa.
Je vais respirer quand même. Tout va bien aller. Je pense qu'on réalise pas, par exemple, à quel point ça nous suit toute notre vie, puis ça se transfère après ça, mine de rien, de génération en génération. Tu sais, si t'as pas d'héritage à transmettre puis t'as juste des dettes, ben c'est parce que c'est un impact sur tes enfants s'ils doivent gérer ça. Là.
Exact.
Parce que je sais pas si vous saviez, mais tu peux refuser un héritage. Sauf que si tu refuses l'héritage, tu refuses tout. Fait que t'as pas non plus la montre de ton père, mettons. Là. C'est soit tu refuses tout, soit t'acceptes tout. Fait que les parents qui laissent leurs enfants dans la merde avec leurs dettes, c'est un peu le résultat. Et on dit qu'il y a un pourcentage inquiétant de 12 % des Canadiens qui déclarent jamais consacrer de temps à l'adoption d'habitudes financières. Fait que 12 % des gens qui font pas de budget, qui regardent pas leurs comptes, qui regardent pas leurs dépenses, qui sont complètement... qui font pas d'épargne non plus, finalement. Fait que la responsabilité est pas tout à fait présente. On dit qu'il y a quand même 62 % des gens qui estiment que leurs habitudes sont meilleures que la moyenne. Fait que les autres, ça va quand même bien. On parle de 38 % des gens qui avouent ne pas se fixer d'objectifs financiers. T'en as-tu des objectifs financiers, toi?
Oui. Ben, en fait, moi, c'est surtout pour mes rendements, là. T'sais, j'espère toujours faire plus que la Caisse de dépôt et de placement du Québec, là.
Ouais, je te le souhaite.
Des gens qui sont payés des centaines de milliers de dollars pour gérer nos portefeuilles puis qui se font un 2,4% de rendement. J'espère les battre à chaque année. Moi, ce que j'ai fait avec Gaétan Royer, c'est que j'ai fait le fameux cours avec Cobalt Investissement sur les placements en bourse, sur les actions. Comment devenir des traders?
Ça t'a coûté quelque chose, sais-tu?
Oui,
ça
coûte quelque chose. Ça coûte une coupe de 100$, mais ça vaut vraiment la peine. Puis, j'ai un planificateur financier. Puis, de l'autre côté, ben, je m'amuse, moi, à la bourse. Puis, jusqu'à maintenant, je suis quand même pas si pire, mais je m'amuse à la bourse. C'est important que tu... Le choix de mots est super important.
Il y en a pour qui ça devient anxiogène, mais c'est plus simple.
C'est ça. J'ai un 90 % où c'est un planificateur financier qui s'occupe de moi. Puis j'ai un 10 % où je m'amuse à la bourse. Et ça, ça fait en sorte que, tu sais, à la fin de l'année, je suis capable de me chercher un 7, 8, 9 % de rendement. Je suis très fier parce que je bats souvent le planificateur financier.
Ben écoute, c'est bon parce que c'est pas la majorité du monde. Il y a 37 % des gens qui consacrent pas de temps à la planification financière, fait qu'ils n'ont pas de planificateur financier non plus. 34 % des gens ne surveillent pas leurs dépenses, pantoute. Tu as un genre de 2 Canadiens sur 5 là, qui disent qu'ils manquent de temps aussi. Ça, c'est un problème qu'ils ne cultivent pas, si on veut, les habitudes. Ça devient un problème courant, mais eux ne s'informent pas. C'est quand même 2 Canadiens sur 5 quand ils pensent cette stat-là. Là. Fait qu'il y a des gens que ça devient pas un gros obstacle. Puis les finances, on va se le dire, c'est une des premières causes de l'anxiété. Là. T'sais, les gens le savent, dans ces données-là qui ont été sorties, c'est 81 % des gens qui disent qu'ils sont bien au courant à quel point ça peut devenir anxiogène, mais pourtant, il y a la moitié de ce monde-là qui accepte quand même de ressentir le stress financier une fois par semaine. Je trouve ça épouvantable.
Les finances, c'est une des premières causes d'anxiété.
Ben oui, mais c'est la base de tout, malheureusement. Là.
La santé, ça pourrait-tu l'être? Parce
c'est sûr que ça embarque là-dedans.
Mais t'es riche et en mauvaise santé...
C'est sûr que ça joue sur l'anxiété, mais attends, vois ça de même.
Il y a de l'anxiété pareil.
Il y a beaucoup de monde qui ont la chance d'être en santé.
Ouais.
Le portefeuille, c'est pour tout le monde. T'sais. Tout le monde a un portefeuille à gérer. Fait que j'imagine que peut-être que ça fait en sorte que c'est plus récent au quotidien. Écoute,
peut-être.
Je suis pas, pas planificatrice financière. Loin de là, j'en ai un pour m'aider parce que je suis vraiment pourrie avec mon portefeuille.
C'est vrai? Bon, j'espère que ça va s'améliorer. Mon power forward est là, mon homme de confiance, mon gars qui va toujours au bat quand on lui demande, le Doc Boucher qui est au bout de la ligne.
C'est un
salut,
super
Doc!
Héros. Hey, comment ça va?
Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de relever le défi de te connecter avec nous pour jaser dans une émission
de radio. C'est Yannick pour toi, n'importe quoi. Ouais.
Mais c'est très apprécié, en tout cas, Doc Boucher, je vous le dis. Là.
C'est réciproque. Merci. Doc Boucher, il fait quoi dans la vie, lui, Doc Boucher?
Ah, ben, je m'occupe des petits gros, moi, Yannick.
Oui.
Ça veut pas ça, hein?
Exact.
Ben oui, je les aide à maigrir, je les aide à retrouver la santé, je les aide à maintenir la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. Parce que tu le mentionnais, là, il y a quelques instants, là, t'as beau avoir quelques millions dans ton compte en banque, mais si t'as pas la santé, ça vaut pas grand-chose.
Exact.
Et je pense que c'est Steve Jobs qui le disait hein, avant de mourir.
Ouais.
Doc, j'ai beau avoir des millions dans mon compte en banque, ça me donne pas grand-chose.
Ouais. Pourquoi les gens considèrent que la santé, c'est important à partir du moment où ils la perdent?
Hein? Hey, c'est drôle que tu me parles de ça. Je suis en train de lire un livre extraordinaire, Yannick. Tu sais, nos ancêtres, nous autres, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réglaient des problèmes immédiats. Ils allaient à la chasse, ils tuaient un bœuf, ils ramassaient du bois, ils faisaient un feu. Okay, pour se réchauffer, se nourrir. Il réglait un problème immédiat sans se soucier des conséquences futures. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la plupart des gens font? Ils se nourrissent, ils mangent ce qui leur tombe sur la main, ils ne réfléchissent pas tout de suite aux conséquences futures parce qu'on est drivé mentalement comme ça. Et arrive le jour où tu tombes malade et tu dis « Oh mon Dieu! » Probablement que je ne me suis pas soucié de ma santé, de ce que je mangeais et du fait que j'étais extraordinairement sédentaire. Et c'est là que des gens vont réagir. Et 6 mois plus tard, ils pensent qu'ils sont redevenus immortels et ils reviennent à leurs vieilles habitudes de vie.
C'est quelques mois plus tard seulement?
Ouais. Moi, je voyais ça en réadaptation cardiaque là, quand je faisais mon projet de recherche au doctorat. J'étais avec des malades cardiaques.
Ouais.
Écoute, les premiers 6 mois, là, hey, t'sais, t'as un impact. Là. C'est sur l'ego. Là. Mon cœur a été touché. J'ai une maladie cardiaque. Faut que je me prenne en main. Faut que je fasse de quoi. Mais pour, je te dirais, 85% par la suite, ça revient aux bonnes vieilles habitudes de vie.
Quelque chose de triste là-dedans.
Ah, eh bien, quelque chose de triste là-dedans.
La nourriture modifiée, Doc, tu sais, on en a parlé, là, je pense que tu étais de passage dans nos studios la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Tu sais, j'ai de la difficulté à faire mon épicerie sans acheter de la nourriture modifiée. Toi, tu es là-dedans, tu es constamment dans le merveilleux monde de la santé. Es-tu capable de faire ton épicerie puis de pas passer genre 3 heures à lire les étiquettes? Il me semble que tout est compliqué quand tu fais ton épicerie.
T'as tellement raison. Ben regarde, ce qui est santé, c'est la périphérie, là. Tu vas aller dans les fruits, dans les légumes, tu vas aller dans les poissons, tu vas aller dans les viandes. Ça, c'est pas mal la base de ce qui est santé, qui est non transformé. Le reste qui est au centre, ce sont tous des aliments transformés.
Mais on peut-tu faire
un aliment ultra Excuse-moi, un aliment ultra transformé, là, c'est 5 ingrédients et plus.
C'est intéressant, ça, par exemple. Est-ce qu'on peut faire confiance de plus en plus aux aliments transformés? Puis je m'explique, on parlait cette semaine du fait que là, ils commencent à manquer de café puis d'espace pour faire du café puis créer puis planter des graines de café. Puis de plus en plus, on pense créer le café en laboratoire. Mais avec les avancées technologiques, chimiques et compagnie, là, je ne suis pas très scientifique, mais est-ce que à un moment donné, ça va être sain de consommer ces aliments-là transformés? Est-ce qu'on va réussir à rendre des aliments transformés sains ou ça n'arrivera pas?
Je crois pas, parce qu'il va falloir toujours penser à la préservation des aliments. Tu sais, ça va partir de l'autre bout du monde, ça va être transporté ici, ça va être stocké. Il faut que tu sois capable de les conserver longtemps. Ça va te prendre un tas de produits chimiques à l'intérieur pour être capable de faire ça, malgré tout. Là.
Mais comment le corps humain tolère toutes ces modifications génétiques-là? On va se le dire, tu sais, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui nous a créés, mais il y a eu des fruits, des légumes qui ont été mis sur Terre, des animaux qui ont été là pour nous donner de la viande. Puis l'humain joue avec justement ces trucs-là qui va faire en sorte qu'on va se ramasser avec du café qui n'en est pas. Ça va goûter la même affaire. On va rajouter un peu de caféine. Tu sais, je veux dire, ça rentre dans notre corps, mais c'était pas prévu que ça rentre, ce produit-là, dans notre corps. Là. Comment on fait pour gérer ça?
T'as 100% raison. Ben, écoute, tu fais ton possible, je pense, dans le monde moderne, c'est que tu comprends que tu essaies de t'orienter vers l'aspect fruits-légumes. Tu ne pourras pas éliminer totalement les aliments transformés. Je pense que l'important, c'est de trouver un équilibre là-dedans, de te dire, OK, régulièrement, au quotidien, je mange des fruits, je mange des légumes, je mange des grains entiers, je mange des noix, je mange du poisson, je mange de la viande, je vais manger du tofu ou des patates du genre. Tu sais que tu restes dans des aliments complets le plus possible. Puis oui, à l'occasion, il va rentrer des aliments ultra transformés, mais tu vas réduire considérablement tes risques, là. Mais si tu es constamment dans un fast-food, bonne chance, là.
Doc Boucher, je trouve que le guide alimentaire est très anxiogène. Je m'explique, c'est-à-dire que, tu sais, on nous parle de tant de portions de fruits, tant de portions de légumes, portions de viande, puis j'ai l'impression que c'est... En tout cas, j'essaie d'être santé dans mon alimentation, mais des fois, je me dis, ah oh, merde, tu sais, j'ai pas mangé, mettons, mes 4 portions de légumes aujourd'hui. On est rendu où là-dedans? C'est quoi les recommandations, mettons, de base, si on veut pas se casser la tête, là?
Ben, si tu veux pas te casser la tête, les recommandations de base, c'est oublier le guide alimentaire canadien.
Ah ouais, hein?
Premièrement, parce que tu vas te perdre. Moi, je te dirais, assure-toi d'avoir des légumes au dîner, des légumes au souper. Tu fais de ton mieux. Tu y vas vers des aliments qui sont, comme je te disais, des grains entiers, là, du pain. Moi, je suis un gars qui fait mon pain. J'aime ça parce que j'ai des grains entiers. Il n'y a pas de produits de transformation, là, de conservation dedans. Écoute, tu fais ton possible là-dedans, puis tu essaies de manger le nombre de calories qui va faire en sorte que tu n'engraisseras pas. Donc, une diversité alimentaire, ta cuisson avec de l'huile d'olive, un peu de produits laitiers sans exagération. Tu vas arriver avec un état d'équilibre, là. Mais si tu cherches à avoir... Il faut que tu penses que le guide alimentaire canadien, c'était fait pour une population en général, là. C'est pas pour un individu. Fait que c'est un guide. C'est un guide alimentaire. On te donne des grands principes de base, mais si tu essaies de tout suivre ça, tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas capable de fonctionner parce que c'est trop complexe.
Là. Est-ce qu'il y a une huile... Vous avez parlé d'huile d'olive, là, puis j'avais déjà entendu... Tu sais, ces internets, on retrouve bien des affaires, là. J'avais déjà entendu que l'huile d'olive, c'était bon non chauffé, là, mais qu'un coup que tu le chauffais, ça devenait un mauvais gras, puis tu étais mieux de prendre, mettons, de l'huile de noix de coco.
Ouais. On m'avait dit que ça pouvait même être cancérigène, là, quand tu utilisais de l'huile d'olive chauffée dans le poêle.
C'est vrai?
Ouais, ben moi, je m'en soucie pas trop, là. Je cuis avec l'huile d'olive.
Mais c'est bon à savoir.
Ouais, non, mais tu sais, hey, c'est parce qu'à un moment donné, là, je vous rappelle, gang, on va tous mourir de quelque chose, hein. Fait que, tu sais, on gère pas l'aspect global, mais on veut gérer des détails insignifiants à un moment donné, là. C'est parce que, wow, on peut-tu commencer par la base, bien s'alimenter, puis après ça, on peaufinera.
Ouais. Ta clientèle, Doc, quand ils vont te voir, parce que ça prend des gens déterminés qui veulent retrouver leur poids, santé, ça s'échelonne pas comme sur 10 jours, là, ce que tu leur fais faire, ça s'échelonne sur plusieurs mois, puis ils reprennent leur santé en main, puis le psychologique va suivre aussi. Est-ce qu'ils trouvent ça dur, des fois, justement, de revenir au jus pressé, plutôt que d'avoir la fameuse orange croche comme jus d'orange? Ils trouvent tout ça dur de se réalimenter convenablement? Parce que à un moment donné, tu regardes, tu sais, moi, des fois, je prends des mauvaises habitudes, là, j'achète des pizzas congelées et tout ça. On s'en rend plus compte qu'on achète des affaires qui sont néfastes, des fois, pour notre santé. Est-ce que ces gens-là te le disent, tu sais, Doc, c'est pas facile, puis je me rends compte à quel point j'étais en dehors de la traque au niveau de mon alimentation?
Ben, écoute, je te dirais que la notion de qualité alimentaire, moi, je l'amène un peu plus tard dans le processus. Une fois que les gens ont géré leur apport en calories, protéines, lipides, glucides en fonction de leur métabolisme. Ça, c'est la première base. Un coup que c'est fait, c'est là qu'on rentre l'aspect de notion de qualité alimentaire. Qu'est-ce que tu vas aller modifier là? Tes 4 palettes de chocolat par semaine, peut-être qu'on va se limiter à une et que tu vas l'étirer sur toute la semaine. Tu comprends? Fait que c'est vraiment un processus d'apprentissage où il faut y aller étape par étape parce que si tu essaies de tout faire en partant, c'est l'échec assuré. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment ce que j'appelle, moi, mon programme, c'est un processus d'apprentissage où tu as le droit à l'erreur. Il faut que tu commettes des erreurs, il faut que tu analyses pourquoi tu as fait des erreurs et comment tu les corriges. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas être parfait. Malheureusement, dans notre monde moderne, les gens veulent être parfaits en partant, ce qui ne fait aucun sens. Donc, on se calme un peu, on y va progressivement et on apprend.
Tu sais, il y a des modes qui passent, puis je sais pas si c'en est encore une, mais il y a un moment où je m'entraînais beaucoup, beaucoup dans ma vie, puis je faisais super attention, puis on entendait beaucoup parler du cheat day, de cette journée-là où là, tu peux manger comme un porc, là, puis il y en a pas de limite parce que le reste de la semaine, t'as fait attention. Es-tu vraiment sain? Es-tu encore d'actualité ou t'es mieux d'essayer d'équilibrer tous les jours?
Ben, moi, je te dirais, l'aspect du cheat day, c'est parce que t'as viré fou la semaine, puis t'es super restrictif. Et t'arrives la fin de semaine pour essayer de ne pas virer fou, tu fais le con, à bouffer tout ce qui te tombe sous la main. Il y en a probablement qui passent bien à travers, mais moi, je suis plus un gars de la voie du milieu, là, de la voie de l'équilibre de vie. Mange équilibré tout au long de la semaine à ta faim. Tu souffriras pas de la faim. Ton métabolisme va être en équilibre. Tu vas brûler du gras. Tu vas être bien dans ta peau. Tu n'auras pas besoin de faire ces conneries-là.
Puis, c'est quoi votre approche avec les gens qui ont des, je vais dire, troubles alimentaires? Là, mais tu sais, étant donné que vous vous occupez des petits gros, comme vous dites, j'adore cette expression-là d'ailleurs. Je vais parler, mettons, d'hyperphagie. Tu sais, les gens qui se rendent compte à travers le processus, peut-être, de perte de poids, qu'ils ont un sérieux problème avec le fait de se suralimenter. Comment on gère cet aspect-là? Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile à dire qu'on va régler le problème qu'à faire, là.
Bien, tu vois, c'est une question très intéressante parce que le monde voit l'hyperphagie, c'est-à-dire de manger beaucoup par certaines périodes, dans une période de temps donnée, comme un problème de nature psychologique. Moi, je le vois comme un problème de nature bioénergétique. Je te donne un exemple. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas déjeuné. Tu n'as pas pris de collation. Tu arrives à midi, tu as pris une salade ou tu as juste brouté de l'herbe. Tu arrives chez vous le soir où tu veux manger les murs et que tu n'es plus capable de résister, c'est que ton corps a fait sa job. Il te dit, tu es en train de me faire mourir de faim, je vais t'envoyer une rage de faim, puis tu ne seras plus capable de te contrôler parce que je ne veux pas mourir. Donc, quand je ramène les gens avec un équilibre alimentaire où ils ne souffrent jamais de la faim, bien, à ce moment-là, l'hyperphagie s'en va.
Ah ouais, hein?
Oui, puis parfois, ça peut être particulier parce que Doc les fait manger plus qu'il mangeait avant.
Ce qui peut être stressant pour certaines personnes.
Avec l'exercice au travers de ça, puis il les met en déficit calorique, mais un déficit calorique léger, c'est ce que tu me racontais.
Exactement, exactement.
Donc là,
ce qui fait que t'es jamais en baisse de réserve énergétique. T'as toujours des réserves énergétiques bien équilibrées, ce qui fait que ton cerveau, il t'enverra pas de rage de faim. Puis le problème avec ça, c'est quand les gens ont des rages de faim, ils mangent beaucoup, ils se culpabilisent eux-mêmes de pas avoir été assez forts. Mais c'est parce que si tu le vois juste sous l'angle psychologique, tu vas toujours échouer. Il faut que tu le vois sous l'angle bioénergétique, où tu t'es tellement privé de calories dans ta journée ou pendant des jours consécutifs que ton cerveau t'envoie juste les bons messages.
Ah, c'est un
cercle
vicieux,
avant
là.
De mourir.
Oui, c'est un cercle vicieux parce que là, tu t'empiffres, le lendemain, tu files pas bien. Fait que tu t'empêches de manger. Fait que là, deux jours plus tard, tu t'empiffres. C'est comme si c'est interminable.
Ouais. Mais tu vois le processus, là? T'es obèse, t'entends le Doc Boucher à radio, il y a quelque chose pour toi pour essayer de le régler. Il va te mettre en déficit calorique. Fait que tu dis, OK, je vais moins manger, mais c'est pas ça. Tu manqueras de rien. Avec ce qu'il va mettre en place, tu manqueras de rien. Puis tu vas peut-être manger mieux que tu mangeais avant, puis peut-être même plus. Mais tu vas avoir un petit déficit calorique. Puis si tu suis ce plan-là, ça va fonctionner, ta patente. Mais des fois, il y en a qui appellent le Doc Boucher puis ils disent « Hey, Doc, regarde, je suis pas content, là, j'ai perdu 10 livres cette semaine, je m'attendais à en perdre 20. » Doc, il dit « Ouais, mais 10 livres, ça va bien. »
C'est énorme, me semble.
Mais là, mais peut-être que si je mangeais moins, j'en perdrais plus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ça, c'est tellement un processus de toujours plus, de plus, de plus, d'en vouloir plus. Tu sais, moi, mes pertes de poids moyennes chez les femmes, là, c'est environ 3/4 de livre par semaine, OK? Ça va entre 0,5 livre à 1,2 livre. Puis mes hommes, c'est environ 1,2 livre à 1,5 livre par semaine, OK?
Même plus les que plus ça, obèses? Je capote.
Même ben, les obèses, tu vas avoir une courbe, tu vas avoir plus vite au début, là. Tu sais, si tu parles d'obèse morbide, oui, ça se peut que je vois du 2 à 3 livres pendant les premières 6 semaines, là, okay? Mais ça va se normaliser par la suite parce qu'il y a de la perte d'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le pourcentage de gras. Le poids total, il y a toujours de la perte d'eau au départ un peu. Donc, il faut que tu expliques mieux les choses que juste le poids sur la balance, là.
Fait que la formule « perd 15 livres en un mois », c'est vraiment de la bullshit, puis c'est quasiment... C'est
ben
pas
oui,
sain,
ben c'est parce que tu perds de la masse musculaire. Ton meilleur prédicteur de la reprise de poids après un régime, c'est ta perte de masse musculaire. Donc, si tu maigris vite, OK, tu vas perdre du gras un peu, mais tu vas perdre beaucoup de muscles, beaucoup d'eau, beaucoup de réserves de sucre dans ton corps, ce qu'on appelle le glycogène. Ce qui fait que ta perte de poids, c'est pas une perte de poids santé. Tu sais, je vais te donner un exemple bien concret, là. Il y a très longtemps, il y a un de mes clients qui embarque dans le programme. Et il décide de me confronter en allant faire la diète cétogène. OK? C'est la diète débile où tu manges, je mange rien que du gras, là. Le gars vient un mois plus tard, il est fier, il a perdu 12 livres. Je l'embarque sur ma balance spéciale, OK, qui mesure le taux d'hydratation, la quantité de gras, la quantité de muscle. OK? Sur 12 livres, OK, la majeure partie est en perte d'eau et de glycogène. Il a perdu maximum 3 livres de gras sur ses 12 livres. Ça, c'est pas santé. Et aussitôt qu'il est revenu une diète normale, il a repris tout le poids automatique, c'est normal. Il a refait ses réserves d'eau, puis il a refait ses réserves de sucre dans le corps, puis il a repris du gras parce que son corps est en carence. Fait que ce jeu-là de privation tout le temps amène que tu joues au yo-yo avec ton poids, et ça, c'est pas sain. Tu es toujours dans un état mental où tu comprends, tu dis que je n'y arriverai jamais à perdre du poids, je réussirai jamais ma perte de poids. Et les gens se mettent ça sur leur faute quand en réalité, c'est qu'ils emploient juste la mauvaise stratégie. Puis les gens sautent de diète en diète avec un nom différent, mais la stratégie, c'est toujours prive-toi de nourriture puis entraîne-toi en imbécile à haute intensité. Avec ça, tu places ton métabolisme en stress et ce stress métabolique-là fait que ton métabolisme ralentit et tu stockes plus de gras. Tu es en mode survie.
Audrey, qu'est-ce qui brûle plus de calories entre 10 minutes, mettons 10 km de course ou 10 km de marche? Qu'est-ce qui brûle plus de calories?
Il y a une couple d'années, je t'aurais dit la course, mais on m'a dit récemment que la marche faisait la même job.
Ouais. Fait que quand ça te tente pas d'aller courir, tu peux juste aller prendre une petite marche, ça va faire pareil.
Tant que tu bouges, finalement.
Hey, contracter un muscle, là, c'est de la médecine. Là. Tu sais, on parle d'exercice en termes de calories essentiellement.
Ouais.
Mais en fait, c'est qu'en arrière de ça, le muscle est un organe que lorsque tu le contractes, envoie des messagers chimiques dans le corps, des hormones qui disent à tes cellules adipeuses, « Hey, libère du gras, on en a besoin en énergie. » Ça fait le même travail que l'insuline. L'insuline qui fait absorber le sucre par les muscles. Le muscle, quand tu le contractes, est une pompe à glucides, est une pompe à sucre où il va en stocker, il va en utiliser en énergie. Et le fait de t'entraîner à basse intensité, pour moi, est nettement plus efficace que t'entraîner à haute intensité parce que tu es capable de maintenir un équilibre énergétique sans t'épuiser, avec des résultats exceptionnels parce que ton muscle est un organe qui, lorsque tu le contractes, a un effet sur ton corps et ton métabolisme absolument incroyable.
C'est quoi la routine magique?
Ben, la routine magique, fais-moi 2h30 par semaine, alternance cardio-musculaire de basse intensité. Va marcher, fais un peu de musculaire chez vous, du yoga, des étirements ou avec des bandes de résistance, puis t'es bien correct.
C'est intéressant.
C'est ça, la petite marche après le souper, ça peut faire la job aussi.
Hey, puis Yannick a fait la job certain, parce que si tu vas marcher après le souper ou après un repas, tu diminues ton taux de sucre dans le sang de 30-35%.
Yeah,
pour un diabétique, est-ce que tu t'entends que c'est extraordinaire?
Exact.
Et nettement plus efficace qu'une pilule?
Exact.
C'est vrai qu'il ne faut pas manger après 8 heures?
Non.
Ah, c'est bon, ça, j'aime ça.
Je savais qu'elle était pas de Non! Il y a tellement de croyances stupides dans notre monde, ça n'est épouvantable.
Donc, on parle encore... L'Ozempic est encore revenu dans l'actualité dans les dernières semaines.
Ouais, puis... avec les micro-dosages.
Avec les micro-dosages et tout ça. Puis, en parlant avec toi, en parlant avec Gabardi, qui n'a pas les mêmes études que toi, bien entendu, mais qui a un autre domaine d'expertise, vous m'avez appris que l'Ozempic peut être pertinent dans certains cas, mais il faut faire attention parce que ça gruge aussi le muscle, l'Ozempic, de ce qu'on comprend. Ça va chercher une certaine masse musculaire. Donc, pour certaines personnes, c'est vraiment pas approprié.
Non, c'est ça. Ben, en fait, moi, ce que je prône, c'est que je suis pour l'utilisation de l'Ozempic chez les obèses morbides. La problématique, c'est que c'est un coupe-faim. Et je te donne un exemple. Si tu as un métabolisme à 1800 calories et que ton coupe-faim t'amène à manger 1000 calories par jour, bien, tu as un déficit de 800 calories. Ce qui veut dire qu'il est trop grand, c'est qu'en maigrissant, tu vas aussi perdre beaucoup de masse musculaire. Ça nous amène à un problème d'obésité sarcopénique, c'est qu'à un moment donné, ton poids reste trop gros, trop important pour ta capacité musculaire et tu perds ta mobilité.
Tu te ramasses en chaise roulante.
Exactement. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont en bénéficier. Là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment... mettre les gens dans un programme vraiment bien encadré. Ça n'arrivera pas, là, OK? Avec notre système de santé, oubliez ça, là. C'est pour ça qu'il faut bien être suivi par son médecin, bien monitorer son poids, mesurer le pourcentage de gras. Mais encore là, je pense pas que le médecin ait le temps en clinique, puis je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps de faire ces analyses-là, mais ça devrait être fait. Il y a là les autres aspects à long terme qu'on va avoir, là, possiblement les problèmes psychologiques, parce que quand tu es en carence de faim, tu vas avoir à un moment donné des problèmes au niveau cognitif. Anxiété, stress, dépression, burn-out.
Comment ça marche, ça?
Comme tu voudras, épuisement.
C'est-tu parce que tu as des zones non nourries, puis...
Comment t'as dit?
J'ai dit qu'est-ce qui cause le fait que ça devient psychologique?
Ben c'est qu'à un moment, ton cerveau, c'est 30 % de ta dépense énergétique. C'est 20 à 30 % de ton métabolisme. Si ton métabolisme est de 2000 calories, là, ça veut dire que ton cerveau, il en prend 400 à 600 calories par jour. Mm. Si tu manques de calories, ça veut dire qu'il y a des organes qui sont sacrifiés en énergie. Ça veut dire que ton cerveau va être sacrifié en énergie. Si ton cerveau n'a pas d'énergie, alors il n'est pas capable d'avoir une neurochimie équilibrée. Pas de neurochimie équilibrée amène à anxiété, stress, dépression, burn-out, épuisement.
C'est assez simple, hein?
Bien, c'est simple, mais c'est pas facile. Ça se dit-tu, ça?
Non, mais moi, pourquoi c'est pas facile, dans quel sens, tu veux dire?
Bien, c'est, tu sais, j'ai l'impression que c'est tellement simple à appliquer, mais pour une bonne majorité des gens, je sens que c'est difficile à entrer dans un quotidien. Tu sais, c'est beaucoup, c'est niaiseux, mais c'est le même principe que quand tu passes des années à apprendre d'une certaine façon, puis on te dit non, désapprends, puis reconstruis-toi, tu sais. J'ai l'impression que les gens sont
tellement raison.
Mais j'ai l'impression que les gens sont tellement stressés, ont tellement un quotidien, fait que ça devient une montagne à surmonter pour eux de juste ajuster le niveau alimentaire puis l'exercice, tu sais.
Ouais, faut que tu sois prêt, hein. Faut vraiment, t'as vraiment raison, c'est complexe. Parce que faut que ta santé soit dans tes trois premières valeurs. Tes trois premières valeurs, exemple, la famille, le travail, la santé, c'est à ça que tu vas attribuer ton temps. Mais si ta santé arrive dans ta quatrième, cinquième valeur, tu n'y mettras pas de temps. Puis écouter un discours comme le mien, même si c'est simple, c'est relativement facile à appliquer, même si ça demande du temps, tu n'y investiras pas ton temps. Tu n'y investiras pas d'efforts. Donc, il faut que ta santé soit dans tes trois premières valeurs. Il faut que tu acceptes que ce soit un processus d'apprentissage, que tu vas faire les choses totalement différentes de ce que tu as appris. Donc, déjà là, c'est un clash de croyances. Où tu vas dire, hey, je fais-tu confiance à Denis là, parce qu'il dit totalement le contraire de tout ce que j'ai appris. J'ai peur d'engraisser, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, tu sais, il y a ces étapes-là à faire et je sais que c'est pas facile.
Mais j'ajoute même, Denis, que c'est au-delà de tes propres croyances. Tu sais, il y a autant de professionnels que d'avis. Hein. Puis j'ai le sentiment qu'il y a certains nutritionnistes qui vont dire contrairement à l'inverse d'un autre, dépendamment de la pensée magique. Il y en a pour qui jeûne intermittent, c'est la solution magique. Il y en a pour qui l'alimentation intuitive, c'est la solution magique. J'ai comme le sentiment que tu sais plus vers qui te tourner.
Bien, tu sais, je vais te donner la réponse, c'est assez simple. Tourne-toi vers la méthode qui t'attire. Si la méthode qui t'attire te place dans une situation de bonheur, de bien-être, de non-épuisement, continue.
C'est bon, ça.
Tu comprends?
Oui.
Si ta méthode te place dans une situation de privation de nourriture, d'épuisement, de perte de capacité cognitive, de trouble du sommeil, de mal-être, tu sors de là.
Je me doute un peu de la réponse que tu vas nous donner, mais j'aime ça quand tu te choques, fait que je me dis je vais te la donner pareil. la nouvelle affaire, c'est Internet dans les aliments magiques, hein, parce qu'il y en a tous les ans des aliments magiques à prioriser dans son alimentation qui te font perdre bien des affaires. Là. La nouvelle affaire, c'est le vinaigre. Ce qu'on conseille aux gens, c'est de manger des légumes en premier dans leur repas puis de prendre une cuillère à soupe de vinaigre parce que ça aiderait, là, je sais pas trop quoi, au niveau du métabolisme. Là, puis ça ferait en sorte que tu pourrais perdre du poids puis brûler des graisses plus rapidement.
Mais c'est-tu des médecins qui sont derrière ça ou bien c'est des gens d'occupation
Non, ça ne peut pas être des médecins qui sont derrière ça. Ça ne peut pas. Hey, s'il y a un médecin qui est derrière ça, vous lui enlevez sa licence tout de suite, OK? Hey, non, le vinaigre, là, il s'en va pas dans les cellules pour brûler du gras.
Ben écoute, dans ce cas-ci, là, on parle d'un docteur Jimmy Mohamed qui s'appelle, qui serait en France, qui aurait souligné
C'est ça, Jimmy. Saluons Jimmy, Jimmy quelque chose, là. Puis qu'il reste en France, s'il vous plaît.
Fait que ça n'a pas rapport, le vinaigre.
Ben non. Il n'y a pas un produit qui va rentrer dans tes cellules pour brûler du gras. Ça n'existe pas. Le gras est mobilisé, s'en va vers tes cellules, et dans chacune de tes cellules, il y a des petites machines biologiques que moi j'appelle des petits rogers qui transforment l'énergie en énergie utilisable pour le corps humain. Et quand cette transformation-là se fait, c'est là que tu maigris. Mais il n'y a pas un produit qui va remplacer tes petits rogers, là, tes petites machines biologiques.
Puis pourquoi on nous dit de prioriser, mettons, les légumes verts?
Ben,
c'est une autre croyance? Ou...
Ouais, ben, moi, je te dis, un mix de légumes, là.
Mon Dieu, j'apprends des affaires, moi, là. On m'a toujours dit, mange des légumes verts avant tout autre légume, c'est mieux pour ta santé.
Oui. Ma grand-mère me disait, mets ta tuque sur la tête, sinon tu vas pogner la grippe, alors que plus tard, ça s'est avéré. Ça n'avait pas rapport. Elle voulait juste pas que j'aille froid.
On manque d'éducation. Hey,
Doc Boucher, je veux te poser des questions. Est-ce que quand tu rencontres tes clients, c'est tout le temps le même plan que tu leur donnes? Puis je m'explique. Moi, j'arrive. Là, actuellement, je pèse 185 livres sur 5 et 11. J'ai des chums aussi qui pèsent 185 livres sur 5 et 11. On s'en va te voir. On sort-tu de ton cabinet avec le même programme?
Non, parce que tu vas avoir des différences au niveau de la masse musculaire, tu vas avoir des différences au niveau de ton style de vie, tu vas avoir des différences au niveau de ta dépense énergétique de base quotidienne. Donc ça, c'est des choses que je tiens compte dans le plan que je vais établir.
Puis tu fais comment pour évaluer ça? Il va y avoir des ressemblances. Tu fais comment pour évaluer ça?
Écoute, j'ai passé 20 ans, depuis 1993 en laboratoire. J'ai fait des tests de métabolisme, OK, jusqu'à probablement 2018. Donc, j'étais dans un laboratoire de physiologie la majeure partie de ma vie.
Ouais.
J'ai tout analysé, les algorithmes, comment ça fonctionnait pour le calcul du métabolisme en temps réel. Moi, j'ai intégré à ça d'autres variables, quelles influences comme le sommeil, le stress, ta dépense énergétique quotidienne. Et j'ai développé mes propres algorithmes de calcul à partir de 30 années d'expérience en laboratoire. Puis c'est comme ça que quand tu viens me voir, bien, ce qu'il va avoir, tu vas avoir un questionnaire santé, tu vas devoir me donner ton pourcentage de gras, là, tu vas devoir t'acheter une balance à impédance, tu vas faire un test de marche. Et moi, avec toutes les données que tu vas m'envoyer, bien, c'est là que je fais ton calcul de ton métabolisme au repos et à l'effort. Je te dis l'apport en calories, protéines, lipides et glucides que tu as besoin pour maigrir, l'apport calorique minimal. Je te donne la zone de fréquence cardiaque où tu vas brûler le plus de gras. Donc, t'entraîner sans t'épuiser et pour maigrir. Et là, toi, tu vas partir avec ça et tu vas mettre ça en place progressivement. Puis là, on va voir ton évolution de ta perte de poids. Ta perte de poids, moi, c'est plus ton pourcentage de gras qui m'intéresse. Donc, ce que je veux voir, moi, c'est une baisse de ton gras et un maintien ou une augmentation de ta masse musculaire. Si j'ai une perte de masse musculaire avec ta perte de gras, je fais ce que j'ai fait avec un de mes clients cette semaine, je le fais manger plus. OK? Parce que là, il perdait du gras, mais il perdait aussi de la masse musculaire. Donc, son métabolisme s'était amélioré ou il était un peu plus efficace que ce que j'avais estimé. J'ai augmenté son apport calorique et là, il est en situation où il a regagné de la masse musculaire puis il perd du gras.
OK.
Ça, c'est le monde idéal.
La graisse viscérale, qui est la pire des graisses qu'on peut avoir, là, chez l'homme du moins, là, ou les abdominaux, ça peut être cancérigène, à ce qu'on nous a dit. Tu sauras me dire si je me trompe. Est-ce qu'on est capable de perdre ça, cette graisse viscérale-là? Parce qu'on dirait, bon, nous autres, on dit, ouais, les petites poignées d'amour, j'aimerais ça que ça disparaisse, mais le plus important, c'est vraiment où, ce qui est autour de l'abdomen, là.
Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, quand tu vas maigrir, tu vas aller l'en solliciter. Puis pour expliquer, là, tu sais, quand tu as des petits plis adipeux, là, des petits bourrelets, là,
ouais.
Ça, c'est de la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale, c'est qu'à un moment donné, tu as tellement accumulé de graisse en dessous de ta peau que tu n'es plus capable de produire suffisamment de cellules adipeuses. Alors là, le gras s'en va en arrière de tes abdominaux et il s'accumule autour de tes viscères. Donc, autour de ton foie, il va envahir ton foie pour finalement arriver probablement à détruire ton foie à un moment donné. Il va s'infiltrer dans tes muscles pour te faire devenir résistant à l'insuline et diabétique. Alors, le gras, il va aller s'infiltrer au niveau viscéral, mais aussi au niveau musculaire, partout dans ton corps. Et c'est là que ça devient extraordinairement dommageable parce que ça crée de l'inflammation dans le corps. Cette inflammation-là, c'est un terreau très fertile au développement des cancers.
OK. Mais là, toi, tu me dis que quand je vais faire de l'exercice supplémentaire, je vais être en léger déficit calorique, je vais probablement perdre un peu de graisse viscérale aussi. Ça vient avec le reste, là.
Okay. Oui, ça vient avec, parce que tu choisis pas où tu vas maigrir.
Ben c'est ça. Ben là, je voulais avoir un six-pack la semaine passée. J'ai pas été capable. Mais s'entraîner pendant, mettons, 7-8 semaines...
Non, mais... Yannick, je t'ai vu, là, c'est une affaire de lutte. Oui. T'as quand même un 4-pack.
Non, ben c'est ça, mais c'est parce que j'avais bu deux Coors Light, fait qu'il en restait juste 4, là. Mais
ça doit être ça, ouais.
Je suis pas capable d'avoir un six-pack. J'ai des chums là, que naturellement, depuis qu'ils sont jeunes, ont toujours eu leur fameux six-pack, puis ils font pas d'exercice, Doc. Moi, j'essaie.
Il y a un aspect génétique, là, que certains sont avantagés par rapport à d'autres.
Je suis handicapé, c'est ça?
Non, t'es juste moins génétiquement approprié pour un six-pack.
Hey Doc, c'est toujours un plaisir de te jaser. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice de dernière minute. Là. Honnêtement, notre invité s'était pas pointé. Puis Audrey a dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé au Doc Boucher. Fait, je disais, hey, c'est vrai, je vais l'essayer. Puis t'as dit, ben oui Yann, j'ai une couple de minutes pour vous autres, ça va me faire plaisir. T'as été très gentil d'être avec nous autres aussi rapidement.
Hey, n'importe quand.
On fait comment pour te contacter, Doc?
DenisBoucher.com, tout simplement.
Ah, oh wow, génial. Je veux juste te dire de boucher que sans toi, matin, on aurait dit bien de la chenoute pendant 30 minutes.
Ben oui.
Au moins, il y avait
un
petit
peu. On a dit un petit peu, mais peut-être juste un petit peu moins.
Il y avait un petit peu de pertinence, au moins.
Ouais, c'est ça.
C'était bien assaisonné.
C'était un petit peu drôle aussi. Merci, Doc.
Salut tout le monde. Bye.
Salut.
L'excellent Denis Boucher, denisboucher.com pour le rejoindre. C'est les gens qui l'ont rencontré. Moi, j'ai chaque fois, je reçois Doc Boucher, des gens qui m'écrivent sur Messenger en disant hey, tabarouette, j'ai été voir Doc, puis. Il m'a mené la vie dure, mais ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, je continue avec ce qu'il m'a mis en place. Je continue à perdre du poids.
Mais ce que j'aime avec cette personne-là, c'est que probablement que sa clientèle est... comment je dirais ça? Tu le sais qu'en allant voir Doc Boucher, ça va peut-être être plus long, mais ça va être à long terme, ça va se maintenir, ça va être efficace. On est tellement à la recherche, même quand on veut pas, même si on le sait, de petits miracles constamment. Ouais.
C'est de l'hygiène. Ça doit devenir de l'hygiène de vie.
C'est carrément ça.
Tout comme ta douche à chaque jour.
Oui,
t'sais.
C'est carrément ça.
Tu penses à ton corps à chaque jour, puis tu te dis, OK, ben regarde, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Je pense que je vais aller faire une petite marche après souper, ça va me faire du bien. Tout ça pour essayer de t'offrir le plus longtemps pour endurer nos enfants.
Oui, puis on réalise comme pas à quel point tout... pour endurer nos enfants, oui. On réalise comme pas à quel point toutes nos actions ont un impact. T'sais, j'ai vu un nutritionniste sportif pendant quelques années, puis à un moment donné, il m'avait dit... parce que j'avais une tendance des fois à pas manger beaucoup une journée, tu sais, puis mettons le lendemain j'avais un entraînement, puis mon entraînement allait vraiment pas bien même si j'avais bien déjeuné, tu sais, puis t'es comme ben c'est sûr que si dans les 24 dernières heures t'as négligé ce que tu mangeais, t'as pas beaucoup mangé, t'as été en gros déficit, même si la journée même tu t'es donné puis tu t'es bien alimenté, ben ton corps est marqué de ça, ton corps a une mémoire là, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui reprennent aussi vite qu'ils perdent là.
Des régimes, là, il y en a depuis, depuis des années et des années. Je me souviens, dans les années 80, c'était la crème Budwig.
Ouais,
je sais pas si toi, si t'avais entendu parler de ça.
J'ai entendu parler de ça, oui.
Mais tout le monde était sur la crème Budwig. Après ça, t'avais eu des genres d'entreprises pyramidales qui sont arrivées, qui te faisaient boire du jus vert.
Oui, bien là, ça, il y en a encore beaucoup. Là,
les gens devenaient malades à boire ça. Parce
mais là, c'est plus des entreprises pyramidales. Hein? Ouais. C'est des entreprises de développement en équipe.
Ah oui, ils ont trouvé un autre nom.
Herbalife de ce monde et compagnie.
Il faut quand même que t'embarques des gens dans ta patente pour continuer à progresser dans l'entreprise.
C'est une clientèle, effectivement, qui se développe.
Tu sais, moi, ça, je juge pas ça. C'est plus le produit qui fonctionne. Pas que l'entreprise te donne puis que là, toi, tu te rends malade à consommer ça dans l'espoir que tu perdes ton poids.
Tu sais, les fat burners, on dirait que ça me fait de la peine quand je vois des gens qui prennent ça.
Il y a des gars au gym qui sont très minces puis qui prennent des fat burners.
Je trouve ça vraiment triste.
Mais écoute, il y en a avec genre une petite épice dedans, là, ce qui fait en sorte que tu as chaud. Fait que tu transpires, même si ça sert à rien. Là, tu transpires en ne faisant absolument rien.
On dirait des effets placebo. T'sais, c'est comme si, au lieu de gérer ta portion de burger du soir, tu veux prendre ça pour essayer d'équilibrer. Gère-toi, tu cours, tu n'auras pas besoin de prendre des suppléments. J'ai vraiment de la misère avec ça. Mais le pire, en même temps, c'est que, je sais pas toi, mais moi, je me suis fait prendre plus qu'une fois, là.
Ben non, je n'embarque pas là-dedans.
Plus
pas
jeune,
là-dedans.
J'en ai pris un maudit derrière.
J'essaie de compenser. Tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup pour manger ce que je veux, mais là, je me rends compte que je mange ce que je veux, mais je mange tout croche. Tu sais, je mange des produits transformés à n'en plus finir. Ma blonde m'a dit la semaine passée, elle dit, c'est rare que je te vois juste manger une pomme, tu sais.
Oui, mais je te vois pas manger, moi.
Elle a vraiment raison. Wow, ben c'est parce qu'on n'a pas les horaires où on peut déjeuner à 8 heures, dîner
non
à midi, puis souper à 5 heures. Là. Ça fait en sorte qu'on n'est jamais ensemble quand on mange. Mais oui, je mange 3-4 fois par jour. Mais moi, c'est des rages. J'ai des rages de petits biscuits Leclerc, les petits biscuits à l'érable.
Absolument, tu comprends?
J'ai ça, j'ai des rages de Pringles. Là, ma blonde m'a fait goûter à des Pringles au cocon. J'avais jamais mangé ça.
Ah, ça m'écoeure, on dirait.
C'était super bon.
C'est bon?
Oui. Oh. Mais moi, mes Pringles, c'est sel et vinaigre.
Mais t'es. Ouais, je te comprends, je suis en même place que toi.
Là, tu m'en donnes, là. Tu me donnes comme le cylindre de Pringles.
Tu passes à travers.
S'il est neutre, je passe au travers sans aucun problème.
Ah, c'est les Oreos.
Ou bien, je passe au métro à côté de chez nous. rayon des congélateurs, mm-hmm. je vois de la crème glacée Häagen-Dazs.
Ah, mm. oh, Seigneur, la Dulce de Leche.
Ou
je suis surée.
L'autre crème glacée, je pense, c'est Nestlé, où tu peux l'avoir au Oreo ouais. ou bien au Rollo.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je me suis fait avoir la dernière fois que j'ai acheté la crème glacée au Rollo. Je l'ai pas mangé complètement, puis le lendemain, je me suis levé, puis ma blonde avait juste bouffé Rollo.
Ah, je fais ça. Mon chum, il m'haït. Moi aussi, je passe à travers les rollos. Je creuse dans la crème glacée pour trouver les rollos.
C'est ça que c'est de la violence psychologique que tu y fais.
Oui, mais ça me rassure. Oui, mais attends, il me fait beaucoup de violence psychologique. Il achète la marque Maison, ça coûte même pas les vrais rollos, c'est insultant. Hey, violence psychologique, ça va dans les deux sens.
La mère de mes gars, elle. Mettons les petits gâteaux McCain. Là. Moi, ouais. j'aimais bien ça, les petits gâteaux ouais, McCain. Avec,
bon. Le marbré, dis-moi le marbré.
Avec les gars. Moi, je prenais tout le temps comme les je commençais sur le bord du rectangle.
Oui.
Ben, elle, c'était tout le temps juste la portion du milieu qu'elle prenait.
Full crémage,
tout le temps. Fait que là, je regardais mon gâteau McCain.
Qui était l'air... mutilé.
C'est comme si quelqu'un avait vargé dedans un coup de poing, là. Vous êtes fucké, les filles.
Mais c'est bon. Mais t'es-tu capable de t'arrêter? C'est surtout
non.
ça la question.
Non, c'est ça. Ben, tu sais, je viens de te
le
dire.
Le problème,
les Pringles, je suis pas capable. Ouais. La crème glacée Häagen-Dazs, je suis pas capable de m'arrêter. Heureusement, ils ont rapetissé. Là. Merci ouais. à la réduflation. Là.
Ouais.
Le prix est à peu près le même, mais ils ont rapetissé le pot.
T'es insultant.
Ah, t'es insulté aussi? T'es tout le temps insulté.
Vraiment, vraiment. Mais j'ai trouvé un truc, par exemple, fait que je te le partage. Okay? Si t'aimes les biscuits, là,
ouais.
Mettons les Oreo et compagnie, dans les Depp, maintenant, ils vendent, au lieu des boîtes, là, ils vendent des 8 puis des 12. Fait que tu sais, tu passes à travers, mais c'est 8 au lieu, mettons, de 30. C'est un peu moins pire.
OK.
Fait que moi, je suis rendu que c'est pas plus sain, mais j'achète ça puis je passe à travers.
Puis le doc disait que les rages... Écoute, je veux pas...
Parce qu'on se nourrit mal.
Non, mais les rages de sucre ou les rages de sel, c'est pas parce qu'on est des porcs.
On a besoin?
C'est vraiment parce qu'on aurait de besoin. Puis j'ai remarqué que moi, souvent après avoir été joué au hockey, j'arrive à la maison... Puis j'ai besoin de sel.
Ça, c'est... Ouais,
j'ai pas
comprends.
Besoin de sucre. Fait que je m'en vais plus dans les Pringles.
Ouais.
Puis lui, il dit, non, mais c'est pas que t'es un porc. C'est juste que ton cerveau a besoin de sel.
C'est rempli de glucides aussi, là, tout ce qui est sucre, chips et compagnie. C'est sûr que les glucides, c'est un besoin que ton corps a. C'est juste que tes glucides, ça pourrait être une banane, tu sais. Mais nous autres, on préfère les bons glucides faciles.
Tu n'as rien de pire qu'à manger une banane
sais,
avec
le se coucher. C'est épouvantable. On
n'y arrivera
jamais.
Ne jamais manger de banane avant de se coucher.
On n'aura jamais d'abdos.
Je parle aux gars, bien entendu. 11h18, on fait une courte pause.
Mais il pète en bouche. Against le
matin. Le matin. Qu'est-ce que t'as à rire encore?
On va s'en être sorti. Oh, Seigneur de Seigneur! C'est le fun des journées de mort.
Oui, on se complète. L'un qui est pas assez stressé, l'autre est vraiment stressé.
Oui, mais je trouve comme ça, je trouve ça hot. J'aime ça, moi.
15 degrés sur Québec pour aujourd'hui, ce sera généralement nuageux. Donc, ce que vous avez là présentement, ça va être le topo de la journée. C'est le fun quand tu conduis, t'as pas le soleil d'en face. Maximum de 19, faut voir le positif. Ce soir, peut-être des averses qui devraient débuter en soirée. Minimum de 13 degrés, généralement nuageux. Demain, jeudi, c'est un jour de paix demain?
Oui, non.
Pas pour nous autres?
Non, pas pour nous, mais pour des gens sûrement. Faut profiter-en.
T'as-tu 20$ à me passer pour de l'essence? Ciel dégagé, maximum de 19 pour demain. On va à Boucher Généreuse demain.
C'est vrai. C'est là qu'on a mis notre argent, ce qui est bon, ce
on
qui est
va
positif.
Aller voir les dirigeants de la Boucher Généreuse. On va aller leur remettre le montant final. C'était 17 500 qu'on a annoncé le soir du gala. Là, on est ailleurs. On est ailleurs, les amis, mais je vends pas le punch. Mais on est ailleurs!
Je pense que c'est vendredi officiellement qu'on peut vous l'annoncer.
Ouais, c'est-tu qu'est-ce que j'avais peur, ouais?
Qu'est-ce que t'avais peur?
Ah, c'est vendredi?
Officiellement, oui. Parce que là, demain, on va faire un petit peu de bénévolat, on va aller remettre le montant et tout. Puis vendredi, je pense que c'est là que la boucherie l'annonce, puis que nous, on l'annonce.
Parce que le vendredi, annoncer des nouvelles le vendredi, tu sais que les journalistes sont déjà en vacances.
T'as raison. Ouais. Mais on va rejaser. C'est pas con comme réflexion.
Non, non, ça vient de moi.
C'est très bon, bravo.
Ouais, c'est ça. Vendredi, maximum de 20. Ouais, c'est ça que j'avais peur. J'avais peur de. Parce que le soir du gala, on a annoncé 17 500. Mais là, j'ai des chums qui ont décidé de déplier. Puis salut en passant, je sais pas tu es qui. Mais il y a quelqu'un qui a décidé d'être mon chum ce soir-là. Puis il a dit: je suis un chum à Marceau, voici un montant.
C'est malade.
C'est malade, mais j'aimerais ça au moins y réécrire.
Bien, en fait, je propose, je comprends. Il y a des gens qui préfèrent rester anonymes, Yann, puis j'ai une admiration pratiquement pour ça, mais au pire que cette personne-là t'écrive personnellement, tu sais.
Ben oui, c'est ça, exact. Mais je sais son prénom. Fait que c'est pas n'importe qui peut me faire croire qu'il a donné ce montant-là. Mais c'est ça, j'avais peur de dire 17 500 parce qu'il y a des gens qui étaient engagés sur parole à envoyer le montant.
Puis qu'ils l'avaient pas encore donné.
Fait que là, je me suis dit, hey, ça n'a pas de bon sens, on annonce 17 500. Imagine-toi si c'est juste 14 000, malgré le fait que 14 000, c'est énormément d'argent. Mais là, ça n'a pas descendu.
Non.
Il y a un montant supplémentaire qui s'est ajouté.
Ça a monté un petit peu.
Je pensais pas que j'avais des amis.
C'est tellement hot, je
exact.
Trouve.
Hey, on parle de quoi demain?
Hey, c'est vraiment le fun. Demain, on a Mathieu Caron, qui est un gars qui a un spectre de l'autisme et qui défonce les barrières, littéralement. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. On a discuté un peu ensemble, mais lui a mis sur pied, entre autres, ça s'appelle... Autisme en mouvement, je veux pas le débaptiser, je voulais être sûre de mon affaire. Puis demain, il va venir nous jaser un peu de, oui, ce projet-là, mais de son histoire à lui. Parce que lui a décidé un peu de poursuivre ses rêves, de ce que je vois puis de ce que je comprends sur ses réseaux sociaux. Il fait des entrevues atypiques qu'il appelle. Lui, il aime ça, jaser, il aime ça le monde. Fait que il est très présent sur les plateformes. Puis il va venir un peu nous parler de sa réalité, tout simplement. Puis je sais que c'est une réalité qui touche énormément de gens, là. On connaît tous quelqu'un qui a ce spectre-là à différents niveaux. Fait que je trouve ça super intéressant, fait que ça va être un peu plus humain demain. Il descend littéralement de Sherbrooke pour venir nous voir. Là.
Wow.
Je trouve ça malade.
Lui, il est autiste. Est-ce qu'il est autiste Asperger?
On lui posera la question.
Possiblement, s'il est très fonctionnel, là, il peut être Asperger, donc c'est un spectre de l'autisme. Ça touche pas le quotient intellectuel. Puis ces gens-là peuvent être des dirigeants d'entreprise extrêmement redoutables. Là,
mais
parce que
c'est
des gens qui sont
ça.
Hyper concentrés sur leurs affaires.
Il y en a que ça paraît pas, il y en a que ça paraît beaucoup. Ouais. C'est personne qui le vit de la même manière. Fait que je pense qu'on va en apprendre beaucoup demain.
Puis j'ai un auditeur, peut-être que je t'en reparlerai plus en détail demain, mais j'ai un auditeur qui m'avait appelé parce qu'on parlait justement des gens qui étaient Asperger, qui lui a fait passer des tests à son enfant parce que les enseignants disaient « Je pense qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme, blablabla. Bla, » bla. Puis le médecin, avec son diagnostic, a découvert que son enfant est Asperger. Puis il a dit « Toi, tu vas passer des tests aussi. » Puis il a découvert à l'âge de 40 ans qu'il était Asperger. Et ça l'a allumé des lumières dans sa vie parce qu'il était tout le temps en questionnement. Ça, il n'avait jamais été capable d'avoir de conjointe très, très, très longtemps. Puis juste pour te donner une idée de ce qu'il faisait, c'est que quand il était avec des convives à la maison, avec sa conjointe, si les convives disaient ben, « Bon, ben nous autres, on va y aller », lui, il ne prenait pas la peine de leur dire « Bye-bye ». Il s'en allait dans son bureau, continuait à travailler sur son entreprise.
OK, petit manque de contact social.
Fait que les gens trouvaient... Il est asocial, mais dans sa tête, lui, les lumières se fermaient. Les amis s'en allaient. Il avait passé une super belle soirée, mais
c'est
il s'en allait.
C'est particulier, hein?
OK, bye! Il s'en allait.
Fait que c'est pas... puis ça peut être insultant quand t'es pas au courant que t'as ça, puis la conjointe est un peu fâchée que tu manques d'aptitude sociale.
Fait que lui, à 40 ans, il a découvert qu'il était Asperger. Puis aujourd'hui, il gagne très, très bien sa vie, mais ça a allumé des lumières. Fait que maintenant, en disant « Salut, moi, je suis Asperger », bien, les gens comprennent plus certains comportements qui sont pas considérés comme étant des...
Mais c'est de mettre des mots, en fait, sur des comportements. C'est rassurant pour certaines personnes.
On en rejasera demain. Les Cowboys fringants, on s'en va avec ça. Pascal CV s'en vient dans le show pour Marceau le midi. Audrey, je te dis un gros merci d'avoir été là.
Salut à toi aussi, mon ami.
À demain. Vous avez des choses à nous dire d'ici là. Il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On salue les gens sur Twitch qui sont toujours très présents. Vous pouvez communiquer avec nous aussi par Messenger sans aucun problème. Les Cowboys fringants, tant qu'on aura de l'amour sur Boulevard. Depuis qu'on a lâché